Genèveactive.ch.
Fabrice Raffin, est-ce que l'artiste n'est pas condamné à être toujours nomade, à investir dans des lieux défavorisés, qui ne sont pas chers, qui ensuite, grâce à ces artistes qui se regroupent, donnent une certaine valeur au quartier et ensuite doivent repartir pour un autre lieu ?
Alors, est-ce que c'est l'artiste tout seul qui donne de la valeur au quartier ? Je ne suis pas sûr, je pense que c'est un petit peu plus complexe. L'artiste, il est là, à un moment donné, il peut avoir une fonction, mais sa fonction, bizarrement, il faut prendre en considération quelle est concrètement son activité. Hein, il faut prendre, parce que toutes les formes culturelles, ou là en l'occurrence de création artistique, ne se valent pas, et puis n'ont pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire que souvent, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'accointances entre la pratique artistique et les friches industrielles, c'est que la pratique de création se rapproche de la production industrielle. Évidemment, elle est souvent porteuse de nuisances, de souillures, de bruit, etc. Toutes choses qui ne sont pas prises en compte en fait quand on pense l'artiste comme agent de la rénovation urbaine ou de la gentrification des quartiers. Donc les formes artistiques qui sont utilisées opportunément ou pas. Pour le développement territorial et un développement économique, ce sont des formes particulières, des formes qui s'adaptent à des formes urbaines d'accueil. Un quartier, je pense au quartier sur les bords du canal de Saint-Martin à Paris, qui sont des endroits où il y a eu de la petite industrie et qui vont pouvoir accueillir des ateliers qui sont en adéquation avec ce type d'espace. Après, sur le moment, les artistes qui seraient trop porteurs d'une nuisance, ou en tout cas les moments de la création artistique, par exemple le moment de la diffusion, ne sont pas pris en compte dans la valorisation, pas systématiquement pris en compte dans la valorisation d'un quartier. Hein, parce que quand on fait des concerts de punk rock, qui pour moi sont des formes artistiques à part entière, on a une autre construction du style, en tout cas une autre qualification du territoire qu'avec des formes que sont l'art contemporain par exemple.
Qui n'a pas créé récemment une certaine mythologie de l'artiste, une certaine consécration qui le différencierait d'autres formes d'activité. Je pense à la phrase de Menger sur les artistes sont des travailleurs comme les autres. Comment recevez-vous cette distinction ?
Alors c'est assez drôle parce que quand je dis ce que je viens de dire précédemment et ce que je vais dire maintenant, on a toujours l'impression que j'attaque les artistes, ce qui est faux. Donc je défends moi les politiques de création artistique, et ce qui ne sont pas les politiques culturelles, il y a une nuance qu'on apportera peut-être plus tard. Mais en tout cas, il existe bien une mythologie, en effet, une mythologie de la culture, une mythologie de l'art, que Jean Cône a qualifié de, comment dire, comme relevant d'une croyance magico-religieuse. Hein, la capacité de l'artiste à s'insérer dans n'importe quelle fissure urbaine ou n'importe quel contexte social, et sa capacité à, alors, soit créer de l'économique, comme on vient de le dire, soit créer du lien social. Ça a été un petit peu la tarte à la crème aussi des années 90 en France, ou dans d'autres pays. Hein. Créer du lien social, élever l'âme. Voilà, on est aussi dans un champ lexical qui est de l'ordre du magico-religieux, supplément d'âme, les temples de la culture, etc. Donc,
créer aussi une certaine aura, puisqu'on n'a jamais vu autant de personnes voulant devenir artistes.
Voilà. Alors ça, c'est, on peut dire référence à Menger, c'est aussi... c'est vrai que en même temps, le nomadisme de l'artiste, c'est à la fois ce qui est la précarité, c'est ce qui répulse et qui attire en même temps. Il y a une espèce de double jeu là-dessus qui est assez paradoxal, mais qui prend d'autant plus sens dans un monde du travail salarié et le monde des entreprises, pas toutes, hein, je ne dois pas stigmatiser non plus le monde des entreprises, mais des grandes entreprises où l'inhumanité du travail est souvent soulignée, l'impersonnalité, et là on est exactement dans l'inverse, la valorisation de l'individu, de l'ego, de l'identité, etc. Donc par rapport au contexte, par rapport au monde du travail salarié, les vocations artistiques se comprennent aussi dans ce sens-là. Moi j'ai écrit sur ce parcours de l'artiste, sur la dimension initiatique, construction de soi, construction identitaire, socialisation aussi. Mais bon, pour revenir à cette question du mythe de l'artiste, oui, c'est quelque chose dont on a du mal à se séparer. Et même les sociologues, très souvent, ont du mal à se séparer et à mettre à plat cette question, tant elle est sacralisée et porteuse, comme disait Bourdieu, ça concerne des objets symboliquement valorisés. Et on est dans la symbolique, on est dans le symbolique. Et là, on a beaucoup de mal à prendre de la distance.
qui dit artiste dit aussi individualisme. Nous sommes aussi dans une période actuellement où cet individualisme semble être plus développé qu'auparavant. Est-ce que par rapport au ce qui a été une utopie, aussi certaines réalisations dans les friches industrielles de ces groupements depuis les années 60, est-ce que ces créations de groupements sont maintenant aussi actives?
C'est une question assez difficile, et c'est aussi la question intergénérationnelle qui est posée là, du lien entre des collectifs culturels, plus qu'artistiques peut-être, ou aussi artistiques, qui existaient dans les années 70, avec beaucoup, dans la suite de 68, hein, de beaucoup de propositions collectives culturelles à dimension politique. Hein, et alors, on est passé quand même d'une posture révolutionnaire, hein, avec 68, posture révolutionnaire d'extrême gauche, à une posture critique citoyenne, indépendante. Alors la posture révolutionnaire, c'était s'adresser directement au pouvoir et à la question d'une nouvelle société sur de nouvelles bases, avec la révolution au sens strict, hein. Et maintenant plus des critiques via l'action culturelle, plus des critiques ciblées, hein, sur des thématiques de société, des problèmes sociaux, l'égalité homme-femme, la question de l'homosexualité, la précarité, etc. Donc il y a quand même une évolution qui suit un petit peu l'évolution sociétale globale, entre le refus des institutions politiques, une responsabilisation individuelle pour ceux qui en sont, pour certains individus, mais cet engagement sur le mode individuel, hein, et plus sur un mode collectif individuel, assez paradoxal, qui n'est plus le mode des partis politiques ou des modes des syndicats. Voilà.
Auparavant, ces groupements artistiques, enfin culturels, se sont fondés sur partager une certaine idéologie. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, avec cette notion de cluster, nous n'en sommes pas arrivés plutôt à une question d'association de différentes entreprises qui peuvent partager des ressources communes et même ne serait-ce qu'aussi en termes de territoire?
La question des années 70 que j'évoquais tout à l'heure, il y avait oui cette question dans la question révolutionnaire, il y avait la question idéologique et d'une espèce de vision cohérente du monde, souvent marxiste, hein, ou d'extrême gauche, anarchiste aussi. Et c'est vrai que là, il y a une évolution sur. C'est pas la fin des idéologies, hein, c'est pas du tout la fin des idéologies, dans le sens où il y a toujours une représentation du monde qui est en jeu. Mais c'est vrai que me semble-t-il, hein, que cette représentation du monde est vécue plus sur le mode individuel. Un mode et un temps, hein, le mode individuel, et c'est aussi la question du temps. Parce que la question révolutionnaire, elle posait la question d'un temps long, hein, d'un temps global et long, alors que là, on est plus dans une proximité et une quotidienneté et un temps restreint sur des enjeux sociaux de proximité en termes d'espace, mais aussi, enfin, proximité sociale, mais aussi en termes de temps. On ne va pas traiter des questions de l'avenir du monde, peut-être à travers des questions écologiques, mais ramenées à des questions locales. Hein. Voilà, on passe aussi dans le local, et alors peut-être que ça va dans le sens de votre question. Après, la question des solidarités locales, évidemment, elle devient plus complexe. On se rencontre, les solidarités sont plus fonction d'opportunité qu'un a priori idéologique. Hein. Même si ça ne veut pas dire non plus que la posture solidaire de gauche, hein, est complètement disparu. Et il reste en plus. Hein, faut pas non plus trop globaliser, homogénéiser le schéma. Il reste quand même des militants d'extrême gauche. C'est aussi ce qui complexifie. Et dans ces mondes culturels alternatifs, si on peut parler de ça, il y a une diversité de postures qui est assez importante quand même.
Maintenant, nombre de politiciens voudraient remettre la culture au premier plan comme porteuse d'images positives, vous l'avez entendu aussi avec le maire de Genève, et ça ne peut pas être poussé par des politiciens. Il faut bien que cette culture, cette production culturelle qui sera la vitrine, soit le reflet d'une qualité.
Alors, en fait, je vais répondre à cette question en reprenant la question de Berlin. Hein, Berlin, qui a l'objet de fantasmes politiques en ce moment énormes, parce qu'on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, toute la culture, un substrat de culture comme ça, un petit peu au départ peu prise au sérieux, donne aujourd'hui des résultats économiques intéressants, génère, alors ça c'est moi qui le dis, mais de l'aménagement urbain d'un type particulier, etc. Mais alors, pour répondre à votre question, ça vient pas de nulle part, ça vient pas du jour au lendemain, et là la question des temporalités aussi, elle est centrale. Puisque j'ai écrit un article là-dessus, hein, qui s'appelle Berlin, capitale de la culture alternative, dans lequel je montre comment il faut, pour comprendre Berlin, la capitale de la culture alternative aujourd'hui, il faut revenir à 1945, la fin de la guerre, des éléments identitaire de l'Allemagne par rapport à la guerre et comment dire la question d'une honte collective qui construit un nouveau rapport à l'autre, qui construit un nouveau rapport à l'altérité. Comment cet élément renvoie aussi à des questions juridiques, à des éléments de contexte, comment à Berlin, en Allemagne de l'Ouest, on ne fait pas son service militaire. À Berlin, c'est le seul endroit où se rassemblent plus d'éléments de contexte de RFA, puisque les mobilisations collectives, elles commencent avec la lutte contre les missiles américains et puis les centrales nucléaires. Donc il y a toute une histoire comme ça ponctuée d'éléments historiques, d'identité collective ou d'éléments, voilà, et puis aussi juridique, puisque le non-service militaire à Berlin, et ensuite le fait que à la chute du mur, la propriété foncière ait été dissoute, en gros, du fait qu'on ne savait pas où étaient les propriétaires, puisque c'était l'État allemand jusque-là. Voilà, donc tout une sorte d'éléments, et la tradition des savoir-faire, des visions du monde qui se construisent à Kreuzberg le long du mur, hein, littéralement le long du mur, dans un quartier à l'époque abandonné, qui n'est pas qui est la périphérie de Berlin, qui est le fin fond de Berlin, Kreuzberg donc, et qui à la chute du mur revient en centre-ville et sous la lumière, et là on découvre, et là, l'attraction commencée dans les années 70-80 s'amplifie avec la chute du mur, quoi. Donc il y a une construction qui est sur un substrat de militantisme culturel, politique, et qui construit aussi de l'économie. Là, on peut aussi le renvoyer à la quasi-faillite de l'État berlinois après la chute du mur, hein, et puis la nécessité pour les acteurs culturels de se débrouiller par eux-mêmes dans les squats. Il y a une économie, hein, privée dans le squat qui est basée autour des bars, autour des recettes propres, etc.
Est-ce que certains de ces modèles sont transposables ? Est-ce qu'il y a une ligne directrice, par exemple, que l'on peut dégager entre Berlin, entre le fameux quartier de Copenhague, et puis aussi ce quartier près de Londres, Hutton ?
Alors, il y a une histoire. Donc, l'histoire allemande, elle croise l'histoire hollandaise et l'histoire américaine, puisque, elle commence quand même au Melkweg à Amsterdam et à la Ufa-Fabrik à Berlin. Les personnes de la Ufa Fabrique et du Melweg sont d'abord allées à Los Angeles dans les années autour des années 68, hein, autour de ça, mais ce sont des personnes physiques qui vont voir là-bas, qui vont voir des expériences hippies communautaires, dont une qui s'appelle The Farm, qui est une espèce de ferme collective comme ça, et ils transposent déjà des éléments. Cette culture alternative, c'est pas seulement de la culture au sens artistique, hein, c'est des savoir-faire en situation de précarité, il faut le dire clairement, et des savoir-faire en situation de précarité et de menace institutionnelle, on va dire, pour ne pas dire policière. Voilà. Donc ils importent déjà une première étape de ces savoir-faire là-bas. Et Berlin, en fait, se structure avec le Melweg comme les deux pôles de ces savoir-faire. Et dans toute l'Europe ensuite, je passe les étapes, hein, mais j'ai suivi ces personnes, en fait, en tout cas une bonne part d'entre elles. Il y a un voyage initiatique qui se fait à Berlin. Les gens de l'usine y vont. Les gens du confort moderne à Poitiers, c'est difficile de comprendre comment, au fin fond de la France, en Poitou-Charentes, en 1985, ouvre un lieu qui s'appelle le confort moderne, qui est similaire à ce qui se fait à Berlin à la même époque, à la pointe des musiques punk rock, hardcore, à la pointe de l'art contemporain, etc. Et ben, il n'y a pas de hasard, c'est que les personnes du confort moderne se sont inspirées de ce qui se faisait déjà à Berlin. Ils ont loué un bus, ils sont allés tous à Berlin, toute l'équipe, une trentaine ou une quarantaine de personnes, voir comment on faisait, comment. La question du comment on fait était centrale, donc les apprentissages de la gestion financière, du rapport aux politiques, de la gestion avec les riverains, les citadins, tout ça s'apprend. Et puis la dimension symbolique, hein, Berlin, c'est cet endroit, là où Ufa Fabrik, c'est cet endroit où on a 18-19 ans, on a des idées un petit peu participatives, critiques en direction de la société, mais c'est très flou, c'est très spontané, balbutiant. Et puis là, on voit que c'est possible et que c'est durable. C'est ce symbole-là que représente Berlin et la Ufa Fabrik et d'autres lieux de Berlin, c'est le SO 36, au tournant des années 70-80, qui va irriguer l'Europe. Je parlais du confort moderne à Poitiers, il y a un lieu qui s'appelle Emmetrope à Bourges, l'usine à Genève, les gens de la Rote Fabrik aussi, tout ça. Voilà. Une histoire.
Et est-ce que ces mouvements ont toujours la même vitalité?
Alors, une fois de plus, la question du vieillissement, il y a eu plusieurs étapes, même à Genève, il y a plusieurs étapes, entre PTR dans les années 70 et l'AMR, hein, c'est ça, je ne sais même plus les termes exacts, état d'urgence un petit peu plus tard, il y a deux générations déjà, ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes. Au confort moderne, il y a une association qui s'appelle L'Oreille Étardie, qui naît dans les années 70, qui sont rejoints en 80 par des gens qui sont plus 70 plus le jazz, les années 80, donc plus le punk rock, voilà, des générations comme ça, mais des transmissions. Tout l'enjeu est là, quelle transmission, quelle possibilité de transmission. La vitalité n'est plus la même, disons que elle n'a pas baissé en intensité, elle a baissé en... Elle s'est déplacée, hein. Ce que je disais tout à l'heure pendant la communication, du domaine culturel au sens politique, plus lieu de vie, citoyen, au sens participation aux affaires de la cité par la culture, on passe à un recentrage sur le registre artistique, au sens intérêt artistique et esthétique, histoire de l'art, au tournant des années 2000. C'est ce que moi j'ai analysé dans toute l'Europe. Hein. Fortement en France, ici un peu moins à Genève, mais fortement en France, aussi en Allemagne, mais même si aussi ça rattrape ici à Genève, on l'a vu tout à l'heure dans le débat, c'est quelque chose qui est donc pas une baisse de vitalité, mais un changement, un recentrage sur l'artistique, qui n'est pas anodin, hein, j'ai analysé après, qui renvoie à des effets de génération, mais aussi à des effets politiques. L'attente du politique est de plus en plus forte en termes artistiques. Donc si vous êtes un jeune groupe, un jeune collectif, il faut que vous montriez patte blanche, en tout cas votre capacité à vous positionner de manière qualitative dans le domaine artistique. Hein. Parce que si vous êtes juste là pour faire de l'expérimentation, comme ça a été dit, sans légitimité, vous vous faites dégager actuellement. C'est un peu ça un des enjeux. Mais bon, je dirais pas qu'il y ait de baisse. Et puis il y a des déplacements. Hein. Des déplacements vers des scènes qui n'existaient pas auparavant, vers le hip-hop, notamment sur des questionnements et des postures culturelles qui sont un peu similaires. Par contre, là, il y a très peu de contact entre les générations, voire les milieux sociaux.
Donc la question de l'évaluation reste primordiale, alors qu'il y a aussi des créations qui ne se révéleront que beaucoup plus tard.
Ou quelle évaluation? Moi, je parle souvent de Genève, je le disais tout à l'heure à l'étranger, enfin en dehors de Genève, pour dire que une des qualité de la politique culturelle genevoise a été d'être capable d'appréhender des collectifs comme état d'urgence au-delà de leur intérêt strictement artistique pour valoriser leur intérêt social et leur intérêt il y a eu aussi des politiques sanitaires, hein, je veux dire à un moment donné la police préfère savoir où sont les deals et tout ça, et c'est une manière de gestion sanitaire et sociale de la question de la jeunesse et de la drogue. Hein, et ça a été valorisé dans la politique genevoise, comme la politique de la ville de Poitiers. L'évaluation, elle se fait là-dessus aussi. Quel coût social? Quelle plus-value sociale? La plus-value sociale, elle est là. C'est moins de dégâts pour les jeunes. Une autre plus-value sociale, c'est la production artistique. C'en est une. Souvent, les villes ne sont pas capables de sortir de ça. Moi, il y a d'autres plus-values sociales. C'est un terme que j'emploie très rarement, mais enfin bon, pourquoi pas. Plus-value sociale, c'est la socialisation des jeunes. Je veux dire, dans l'état d'urgence, beaucoup de gens sont passés à l'état d'urgence pour avoir une première sensibilisation aux enjeux politiques, aux enjeux urbains, prendre la parole dans le débat public, se construire en tant qu'individu, etc. Donc ça, c'est l'aspect socialisation de la jeunesse et qui me paraît très important dans ce genre d'initiative au-delà d'un enjeu strictement culturel. Et après, il y a d'autres plus-values qui paraissent anecdotiques, mais qui ne le sont pas, qui sont vraiment centrales au niveau de ce qu'est une ville, ce qu'on veut comme ville, une conception de la ville. Sur l'animation, hein. C'est aussi des lieux où on fait la fête, où on se rencontre, des lieux de sociabilité, hein, donc dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'ils ont un sens. Et donc la ville de Genève a été capable de ne pas miser que sur l'artistique. Évidemment, il y a une petite attente à un moment donné, qui s'est amplifiée d'ailleurs, mais à un moment donné, je mets sur le même plan le confort moderne l'usine, parce que je les ai comparés, mais... Le confort moderne à Poitiers n'est même pas dans le service artistique ou culture de la ville, il est dans le service jeunesse, quoi. Donc c'est dire que les attentes ne sont pas différentes, c'est assez significatif.
Il y a un mot qui revient régulièrement dans vos propos, c'est celui de gestion. Donc ces centres, qu'ils soient à Berlin ou qu'ils soient ailleurs, se sont construits grâce à une forte capacité d'autogestion qui demande quand même un engagement important, qui est tout à fait à l'opposé de ce que l'on peut communément imaginer comme l'installation d'artistes de manière un peu bohème dans un quartier.
Comment dire ? Il y a une implication individuelle très forte. Bon, j'ai analysé ça, j'essaie de faire un résumé. On peut s'épuiser à chercher des points communs artistiques entre tous ces individus. Certains ont des points communs, ils aiment bien tel style musical, tel type de théâtre, etc. Ce qu'ils ont par contre tous en commun, c'est à un moment donné, sur leur parcours, Je contextualise, dans les années 80-90, aujourd'hui je serai moins catégorique, parce que les modes de recrutement dans les collectifs sont différents. Donc c'est un moment dans leur parcours de rupture avec l'institution. Rupture et critique de l'institution. Alors, on appelle ça de la posture contestataire, mais ils l'ont tous. Et ça commence d'abord par la famille, l'école, donc l'institution au sens sociologique du terme. La famille, l'école, ça peut être la religion, ça peut être l'armée. Souvent, je parlais de l'armée en ce qui concerne l'Allemagne, mais c'était quand même très significatif, pour les jeunes gens en tout cas. Voilà, donc il y a ce moment de rupture. Et puis, c'est donc différents profils que j'ai pu analyser dans un bouquin. Mais voilà, tous vont retomber dans les collectifs pour se resocialiser ou se socialiser d'une manière différente sur leur propre mode, on va dire. Voilà, se construire. Et donc ce moment, il y a quand même une espèce de fuite en avant, d'énergie désespérée, en même temps très positive, mais à la fois très difficile, des situations de précarité socio-affective très très fortes. Et là, on expérimente l'organisation. Mais là, il ne s'agit plus d'une organisation normative et imposée, c'est une organisation qui se fonde sur le pragmatisme et le faire. Je l'appelais d'ailleurs la culture du faire, F-A-I-R-E. Mais cette culture du faire, elle a pour particularité de se construire dans l'urgence et sur la précarité, je l'ai dit, et cette précarité, c'est la précarité économique. Donc toutes les organisations là n'ont pas assez de moyens financiers pour fonctionner, et il va falloir compenser systématiquement le manque de moyens financiers par de l'énergie humaine. Et alors, ce qui fait que c'est des situations où on est dans une forme d'engagement total, les individus sont engagés dans tout leur être. D'où des situations très très militantes, des fois. Voilà. Et donc, et de l'organisation, et de l'invention aussi, la possibilité d'inventer des savoir-faire, ou alors d'aller en chercher, comme je le disais, chez d'autres qui ont expérimenté ces mêmes situations. Mais une caractéristique, juste pour terminer là-dessus, de ces modes d'organisation, c'est la polyvalence des fonctions. Donc polyvalence verticale. Chacun est susceptible de remplacer l'autre de manière verticale. On voit souvent, on voyait encore, ça c'est un peu institutionnalisé, entre guillemets, mais le directeur, des directeurs de centre allaient déchirer les tickets à l'entrée du concert. Ça, c'est des choses qui sont pas, ce qui est assez difficilement envisageable à l'Opéra de Paris, par exemple. Et donc polyvalence verticale, mais aussi polyvalence horizontale, c'est-à-dire qu'on est capable aussi d'avoir plusieurs compétences. Je sais pas, barman, mais aussi on peut faire des affiches, musicien, etc. Voilà.
Comment c'est dans les exemples qui ont réussi, comment c'est concrétiser le soutien de l'État?
Alors ça dépend de la capacité, oui, à prouver l'utilité sociale.
Premièrement, ça peut être le soutien, comme ça peut être aussi le contraire.
Oui, donc d'abord créer la confiance, parce qu'on sous-estime quand même on sous-estime la stigmatisation de la jeunesse. C'est un truc que je dis un petit peu comme ça sans réfléchir, mais bon, il y a de ça. Ces populations perçues, en tout cas, ou de fait hirsutes, on va dire, j'emploie ce terme parce qu'on me l'a dit dans les entretiens. Population hirsute, de jeunes exubérants, voilà, et dans le rapport intergénérationnel, il y a une peur. Il faut le dire, les politiques, surtout quand il n'y a pas de tradition locale, en fond de Poitou-Charentes, au début, il y a une espèce de rencontre comme ça. D'une part, on a peur, et après, on ne prend pas au sérieux. Donc, il y a différents éléments. Il y a la jeunesse, mais il y a les formes culturelles portées aussi. Il y a une espèce de... Et donc, comment on casse ça, comment on casse ça, les exemples que je connais, je ne voudrais pas systématiser non plus, parce que où ça fonctionne, où on arrive à casser ça, c'est qu'il y a des personnes dans le groupe qui ont la capacité de communication. Qui sont, moi, bêtement, je les ai appelés des passeurs, hein, qui sont ces personnes capables de parler à la fois au groupe dans son ensemble, dans sa radicalité ou peu plus ou moins forte, et puis la capacité de parler aux politiques dans ses codes et de neutraliser les peurs, etc. Donc là, c'est un élément très important de la reconnaissance, du processus de reconnaissance, mais l'histoire des groupes, hein, même à l'usine. Et puis il y a plusieurs acteurs, il n'y a pas que le politique, hein, on réduit toujours, c'est normal, entre guillemets, donc il y a le politique à convaincre, à rassurer, auprès duquel trouver des formes de légitimité, mais il y a aussi les riverains, il y a les promoteurs immobiliers, il y a donc, autrement dit les acteurs économiques, il y a les acteurs sociaux, il y a toutes sortes d'acteurs de la ville, et quand on disait que... Pour reprendre la phrase de Menger, il faut prendre l'artiste comme, c'est pas exactement ça, mais moi c'est un peu la posture que j'ai aussi, comme un acteur social comme un autre, hein, il faut l'appréhender comme n'importe quel acteur social. Le collectif culturel, il y a très peu d'artistes dedans d'ailleurs, hein, dans beaucoup, en tout cas maintenant c'est moins le cas, mais jusqu'aux années 90, il y a très peu d'artistes, doivent négocier leur place dans la ville, voilà, tout simplement. Donc si on arrive à convaincre le politique mais qu'on ne convainc pas les riverains, on risque aussi de dégager. Si Genève, c'est un bon exemple, les promoteurs immobiliers ont fait un procès à l'usine à un moment donné, donc la ville a réussi de fait à être aux côtés d'état d'urgence parce que c'était à eux le bâtiment, mais ils ont quand même soutenu. C'était pas seulement une proximité obligée. Voilà, donc la construction de la légitimité, elle se joue à plusieurs niveaux, avec plusieurs acteurs, et le groupe lui-même, la responsabilité du groupe est engagée dans sa capacité à communiquer ce qu'il fait et à le valoriser, à le légitimer.
Genève Active.ch